Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 1er mars 1871, Paris est occupé par les Allemands. Le 14 septembre 1870, le général Louis Trochu, gouverneur militaire de Paris et président du gouvernement de la Défense nationale, passe en revue l'armée chargée de protéger la capitale. De la Bastille à l'Arc de Triomphe, sur les grands boulevards et les Champs-Élysées, sont massés 115 000 gardes mobiles, les moblots, jeunes gens appelés des départements de la France profonde, et 200 000 soldats citoyens de Paris, peu expérimentés, qui constituent la garde nationale. 50 000 soldats d'infanterie de ligne, 18 000 hommes échappés de Sedan, 15 000 matelots et 700 pièces d'artillerie complètent ce dispositif militaire. Le soir même, Trochu adresse une vibrante proclamation. Jamais aucun général d'armée n'a eu sous les yeux le grand spectacle que vous venez de me donner, 300 bataillons de citoyens organisés, armés, encadrés par la population tout entière, acclamant dans un concert immense la défense de Paris et la liberté. Ayez donc confiance entière et sachez que l'enceinte de Paris, défendue par l'effort persévérant de l'esprit public et par 300 000 fusils, est inabordable. Le 15 septembre, les Prussiens sont devant les forts de la ceinture parisienne. Trois jours plus tard, la capitale est totalement encerclée. Les villages de la banlieue sont évacués. Les 300 000 fusils veillent sur les remparts, tandis que les soldats de métier entrent en contact avec l'ennemi. À partir du 6 janvier 1871, les Prussiens bombardent Paris. Les obus tombent au rythme de 18 à l'heure. Les difficultés d'approvisionnement sont criantes. Un boucher du boulevard de Rochechouart vend des chats à 20 francs, des corbeaux à 100 sous et des moineaux à 1 franc et 25 centimes. 25 523 chats sont mangés durant le temps du siège. Les deux trotteurs offerts par le tsar à Napoléon III sont vendus 800 francs. Ils sont transformés en saucissons chevaleresques. Tous les trois jours, les Parisiens peuvent acheter 33 grammes de viande chevaline. Pour les obtenir, ils doivent faire la queue dans d'atroces conditions climatiques. Même attendre devant les boulangeries où un pain théoriquement composé de blé, de riz et d'avoine est vendu. Le 14 novembre, un pigeon voyageur venant de Tours apporte une nouvelle pleine d'espoir. L'armée de la Loire a repris Orléans. Trochu échafaude aussitôt un plan de sortie pour permettre à l'armée de Paris et à celle de la Loire de se rejoindre à Fontainebleau. Les Parisiens se lancent à l'assaut de Champigny qu'ils enlèvent. Le 3 décembre, les Français sont contraints de repasser la Marne, Orléans est reprise et le rendez-vous de Fontainebleau est manqué. Le 28 janvier 1871, à 20h, l'armistice est signé. Les négociations de paix débutent. Les Prussiens proposent à Adolphe Thiers le marché suivant. La France donne Belfort à l'Allemagne, où 30 000 soldats allemands occupent une partie de Paris, et ce jusqu'à la ratification des préliminaires de paix par l'Assemblée nationale réunie à Bordeaux. Selon la convention spéciale du 26 février, Paris se sacrifie pour Belfort. L'armée allemande entre dans la capitale le 1er mars. Les Prussiens franchissent l'avenue de l'Impératrice, actuelle avenue Foch, est l'avenue de la Grande Armée, puis descendent les Champs-Élysées. Des palissades séparent le Paris libre du Paris occupé. L'occupation de la capitale prend fin le 3 mars, après la ratification des préliminaires de paix. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire, un jour trois livres qui a été préparé comme de tradition par Emmanuel. C'est Marianne Faithfull qui nous a quittés il y a quelques jours, que nous allons honorer à travers ses chansons en 1979. Elle nous proposait l'un de ses plus grands succès, Broken English. Écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire. Un jour, trois livres consacrés aujourd'hui à Notre-Dame de Paris. Nous commençons par Notre-Dame de Paris, page d'histoire. C'est signé Christophe Dickès aux éditions Salvator. Notre-Dame de Paris, ce vaisseau de pierre qui symbolise toute la France, vogue sur les flots d'une histoire parfois tumultueuse. Elle est l'âme d'une ville qui devient la capitale des Francs, l'un des centres de la christianisation du pays, avec le culte de ses innombrables saints et l'incarnation du début de l'art gothique qui va révolutionner l'architecture religieuse pour les derniers siècles du Moyen Âge. Elle est aussi, une fois le royaume et la nation bien établis, l'emblème de notre pays dans ses moments de gloire ou de vicissitude ou de tragédie. L'auteur évoque les grands moments de l'histoire de Notre-Dame, comme celle d'une mère qui veille discrètement sur ses enfants, se réjouit de leur triomphe et pleure leur peine. Christophe Dickès est historien et journaliste, spécialiste de l'histoire de l'Église. Notre-Dame de Paris, page d'histoire, c'est aux éditions Salvator et c'est signé Christophe Dickès. Carnet de voyage d'Olivier Latry, toujours aux éditions Salvator. Olivier Latry est le titulaire de l'orgue de Notre-Dame de Paris. Il n'en est pas moins un voyageur, souvent en tournée en France et partout dans le monde. À chaque fois, ce sont de riches découvertes, des moments émouvants ou plus drôles, des rencontres passionnantes et des instruments aussi singuliers les uns que les autres. Avec l'orgue, l'aventure est toujours nouvelle. Et le propos de ce livre permet d'en découvrir aussi le fonctionnement, si fascinant. Dans ce témoignage alerte, nous accompagnons Olivier Latry de Meaux à New York, de Remiremont à Budapest ou de Regensburg à Philadelphie. Et plus profondément, il est question ici du rapport à l'indicible, à la foi dont l'artiste se fait l'apôtre, parfois à son insu. Carnet de voyage, au pluriel, c'est signé Olivier Latry et c'est publié aux éditions Salvator. Et nous terminons cette chronique avec Notre-Dame de l'Univers de Philippe Le Guillou aux éditions Gallimard. Le 15 avril 2019, un terrible incendie ravageait Notre-Dame de Paris. Depuis la passerelle des Arts, l'auteur a vu les flashs lécher le beffroi nord de la cathédrale. Dès les premières heures du drame, l'événement a pris une dimension planétaire. Le lendemain, il a marché non loin du monument, dont la carcasse béante fumait encore. C'est alors que lui vient l'idée d'un livre consacré à Notre-Dame, une sorte d'exploration de son histoire, de Maurice de Sully jusqu'à nos jours. Une célébration de cette symphonie de pierre, des heures glorieuses aux moments les plus sombres, des profanations révolutionnaires, aux grandes cérémonies liées à l'histoire de France. Il a ainsi rencontré plusieurs acteurs de la reconstruction, le général chargé de diriger les opérations de relèvement de l'édifice, le général Georgelin, l'archevêque de Paris, le recteur de la cathédrale, le designer choisi pour concevoir le nouveau mobilier liturgique. C'est ce roman de la cathédrale qui se déploie de Napoléon au général de Gaulle, de Hugo à Claudel, un récit doublé d'une enquête sur l'univers de Notre-Dame, son mystère, ses liturgies, les enjeux et les conditions de sa restauration. Notre-Dame de l'Univers, c'est signé Philippe Le Guillou, c'est publié aux éditions Gallimard. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée. C'est en chanson que nous allons nous séparer avec la regrettée Marianne Faithfull. Nous écoutons The Ballad of Lucy Jordan. C'était en 1979.
She'd never ride through Paris in a sports car. Oh,